Salut, tu te trouves sur la butte devant le château de Lublin. Je m'appelle Anna Nowakowska et j'habite à Lublin depuis quelques années. Je veux te montrer Lublin, certes pas toutes les villes. Je veux faire avec toi une promenade le long du parcours principal de la ville. Notre promenade durera 1 heure. Je ne veux pas te montrer exclusivement des monuments, puisque, pour ceux qui ont consciemment choisi cette ville, Lublin est un état d'esprit. Pour commencer, entrons dans la cour du château et traversons-la. Arrêtons-nous près de la grille située au fond de la cour. Certaines personnes qui décrivent Lublin disent que c'est la plus belle ville d'Asie. D'autres disent que c'est une porte vers l'Orient, la Jérusalem du royaume de Pologne. Pour d'autres, Lublin se résume à Majdanek. D'autres encore se souviennent qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la ville était la capitale du communisme, mais aussi un des lieux où sa chute a été provoquée. Certains perçoivent Lublin comme une ville étudiante, d'autres la voient comme la capitale de la région la plus pauvre de l'Union européenne. De plus en plus de personnes espèrent que, dans quelques années, Lublin deviendra capitale européenne de la culture. On va faire le trajet le plus simple, du château, par les rues Grodzka, Krakowskie Przedmieście, et Aleje Radzławickie, jusqu'à la cité universitaire. On va découvrir l'histoire de la ville en parcourant ses rues et ruelles. Mais pour l'instant, restons encore un petit moment dans la cour, près de la grille. Quelques données sur Lublin. Lublin, c'est d'abord un château. Elle a été 2 fois la capitale de la Pologne. Elle est traversée par 3 rivières. Elle compte 4 universités et 1 école polytechnique. 5 stations de radio y siègent. Elle compte 6 vastes parcs, idéaux pour la promenade. Elle est située sur 7 buttes, comme la ville de Rome. Elle compte 8 lignes de trolleybus. Je souligne, de trolleybus, car celles d'autobus sont beaucoup plus nombreuses. 8 degrés, c'est la température annuelle moyenne de l'air. En Pologne, il n'y a que 9 villes plus grandes que Lublin. On peut y visiter au moins 10 musées. Lublin est une des 16 capitales des régions, nommée Voïvodie en polonais. Ses habitants peuvent chanter dans l'un de ses 17 chœurs. Lublin est divisé en 27 quartiers. Il y a 400 000 habitants, dont 1/4 d'étudiants. Les premières informations sur Lublin datent d'il y a plus de 800 ans. Voilà pour l'énumération. On atteint la fin de la cour. Reste devant la grille qui l'enferme. À travers la grille, tu peux voir une partie du panorama de la ville. Regarde sur ta droite. Le bâtiment de briques rouges qui se trouve à droite est le symbole de Lublin. C'est la chapelle de la Sainte Trinité. Il faut savoir que la région lublinoise, en polonais Lubelszczyzna, a toujours été une zone frontalière entre les territoires polonais et les terres des Ruthen. La chapelle est le fruit de la rencontre de l'architecture gothique occidentale et des fresques byzantines orientales, dont tous les murs et la voûte intérieure sont couverts. Traversons la cour sans hâte et arrêtons-nous près du donjon. Regarde autour de toi. Nous sommes en 1416. Ladislas Jagellon fait venir au château érigé par ses prédécesseurs une équipe d'artistes de l'Est qui ont pour tâche de décorer une chapelle vide du château par des fresques. Chacun d'eux est issu d'une école différente et a des expériences diverses. 3 saisons plus tard, le travail est fini. Les fidèles fréquentant la chapelle peuvent retrouver dans ses polychromies les influences de l'art du mont Athos, de la Serbie ou de Kiev, autrement dit de toute l'Europe orthodoxe. Si tu fais une promenade attentive, tu vas certainement apercevoir le motif des anges de la chapelle dans l'espace urbain, sur les affiches, les autobus et même sur les peintures murales. Si jamais tu as un peu de temps après notre visite, n'hésite pas à revenir et visiter la chapelle. Un autre élément phare de Lublin est le solide donjon qui surplombe le château. Il est situé à ta gauche quand tu tournes le dos à la grille. Regarde par la fenêtre et tu te rendras compte de l'épaisseur de ses murs. En effet, les murs du donjon atteignent une épaisseur de presque 3,50 m. Approchons-nous de la sortie. Ce bâtiment, érigé au XIIIe siècle, servait non seulement à la défense de la ville, mais aussi de logement. Fais attention, la chapelle et les donjons, vestiges de l'époque moyenâgeuse, se distinguent du reste du château. Le château original a été délabré au cours de plusieurs guerres qui ont ravagé Lublin. Le château que tu vois n'a jamais été habité par des princesses ni par des chevaliers, mais par des prisonniers. Au XIXe siècle, il appartenait à l'Empire russe. Les autorités avaient décidé de reconstruire le château pour y installer une prison politique. Pendant 150 ans, y ont été enfermés les prisonniers de divers bords, des insurgés polonais indépendantistes, des membres de la résistance en période nazie puis soviétique. Au sous-sol avaient lieu les exécutions. Aujourd'hui, c'est un musée. Nous sommes maintenant en train de sortir devant le château. Devant toi s'étend un beau panorama de la ville. Reste là quelques instants. Le château est l'un des attraits de Lublin, pour les touristes en particulier. C'est ici que la plupart des touristes visitant Lublin se font prendre en photo. Pourtant, souvent, ils ne sont pas conscients de l'histoire tragique de ce lieu. Quand tu seras devant le château, fais attention aux panneaux informatifs. La plupart évoquent le château-prison. Tu te trouves donc devant le château. Laisse-le derrière toi et tourne à droite. Juste derrière le château, tu trouveras une rue qui descend abruptement. Emprunte-la. Fais une pause dès que tu atteins des ruines de pierre grise. Les murs que tu vas voir sont ce qui reste d'un beffroi juif, nommé ainsi en raison de l'ancien quartier juif qui était situé à proximité. Ce beffroi quadrangulaire, construit au XIVe siècle, faisait à l'époque partie intégrale des remparts du château. Autrefois, il était nommé beffroi Kazimierzowska, du nom du roi polonais Casimir III le Grand qui, selon un dicton, transforma la Pologne de pays de bois en pays de pierre. Voici à ta droite un exemple de ces murs. Fais une pause à cet endroit. Regarde autour de toi. De l'autre côté de la route, à deux voies qui passent en contrebas de l'endroit où tu te trouves, juste derrière la gare d'autobus, tu verras la tour blanche de l'église orthodoxe. Tu sais déjà que la région lublinoise est depuis toujours une frontière entre la Pologne et les terres ruthènes. D'ailleurs, certains linguistes prétendent que le nom de la ville est d'origine ruthène. Cet emplacement particulier a fait de Lublin un centre important de commerce. Des commerçants ruthènes s'y sont installés et au fil du temps, ils ont créé une colonie à Lublin. Une des plus anciennes rues de Lublin porte le nom Ruska, qui est probablement un vestige du quartier habité par la population ruthène. Il est bien connu que les ruthènes locaux avaient déjà au XIVe siècle leur église orthodoxe à Lublin. Celle que tu vois a été érigée dans la première moitié du XVIIe siècle. C'est une des plus anciennes églises orthodoxes en briques. Actuellement, elle est l'une des deux églises orthodoxes de Lublin et fonctionne aussi comme siège du diocèse de Lublin et de Chełm. Pendant des années, l'église orthodoxe fut l'une des trois églises les plus importantes dans la région, mais aujourd'hui, il n'y a plus que 150 familles appartenant à cette confession. Sur la butte verte, à droite de l'église orthodoxe, derrière la station Statoil, se trouve un cimetière juif. Même si c'est difficilement imaginable, tout ce que tu vois au-dessous de la butte du château, la route, la gare d'autobus, faisait partie du quartier juif. C'était justement là où les cortèges funèbres commençaient leur trajet. Exactement au-dessous de l'endroit où tu es, se trouvait la grande synagogue, la fierté des habitants de Lublin, qui pouvait abriter plus de 3000 fidèles. Elle a été détruite pendant la guerre et ses ruines ont été démontées par la suite. Si on creusait à la pelle, on trouverait sans doute le dallage de la synagogue. Reviens près du château et mets-toi en haut de l'escalier reliant la place Zamkov au château. On ne peut pas mentionner l'histoire de Lublin sans évoquer son histoire juive. Comme l'oblige le titre de Jérusalem du royaume de Pologne attribué à la ville. Il y eut des périodes où les Juifs constituaient la moitié de la population, comme par exemple à la fin du XIXe siècle. Approchons-nous de l'escalier. Une des écoles d'études talmudiques les plus importantes se trouvait à Lublin, Puisqu'elle jouissait d'un haut niveau d'enseignement, les familles juives désirant assurer une bonne formation à leurs fils les plaçaient dans cet établissement. L'un des fondateurs de la yeshiva au XVIe siècle était Shlomo Luria, Maharshal. Nous pouvons voir son tombeau au cimetière juif. Ses mérites étaient tels que l'on s'est décidé à donner son nom à la grande synagogue, la synagogue de Maharshal. En yiddish, c'est la donne Maharshal Shul. La yeshiva a été démantelée au XVIIe siècle pendant une invasion d'armées ennemies. Dans les années 20, on a décidé d'ériger une nouvelle yeshiva, Chachmei Lublin. Elle a été ouverte en 1930 et a fonctionné pendant 9 ans, jusqu'à l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Le bâtiment a survécu à la guerre. Après la guerre, l'académie médicale s'y est installée. Maintenant, le bâtiment appartient de nouveau à la communauté juive. Une fois en haut du grand escalier, arrête-toi et regarde autour. En bas, tu verras une place ovale. Descends quelques marches, mais pas jusqu'en bas. Arrête-toi sur le palier le plus proche. À ta droite, tu apercevras le monument du lion. Autrefois, il s'y trouvait une maison, au numéro 28 de la rue Sheroka. Elle était habitée par Jakub Itzhak Horowitz, qui était appelé le voyant de Lublin, ou bien Lubliner, ou encore tout simplement Lublin. Pour de nombreuses personnes, le mot Lublin voulait dire le voyant. Selon la légende, comme l'indique son surnom, il avait le don de lire le passé et de prédire l'avenir. Il est devenu célèbre dans tous les coins de la Pologne. Des gens venaient des quatre coins du pays pour lui demander conseil. Il était tzaddik, enseignant des hassidis lublinois. Et l'hassidisme est un mouvement mystique du judaïsme. Je veux te raconter une histoire sur le tzaddik. Tournons à gauche et en prenant une ruelle étroite, approchons-nous du petit pont reliant le château à la porte Grodzka. Selon la tradition hasside, en 1806, quand l'armée napoléonienne entra sur les terres polonaises, Napoléon Bonaparte envoya une lettre aux rabbins et aux tzaddiks les plus importants du pays en leur demandant leur soutien. C'est alors qu'à Lublin, dans la maison 28 de la rue Sheroka, eut lieu une rencontre entre les trois dirigeants hasside les plus importants de la région, de Lubliner, de Saint-Juda de Przesucha et de Magit de Kozienice. Le voyant prédit l'échec de Napoléon en Russie. Mais ce n'était pas tout. Le voyant constata aussi que Napoléon était l'incarnation d'Armiliouche, le symbole du plus grand mal pour le judaïsme. Il voyait sa campagne de Russie comme une lutte du mal contre les biens. Avec l'échec de Napoléon en Russie, commencera le siècle messianique, notamment la libération des Juifs. Il fallait prier le ciel afin qu'il envoie le Messie plus vite. C'était eux, les trois tzaddiks, qui entreprirent cette tâche. Arrêtons-nous un moment. Malheureusement, c'est le ciel qui décide de l'avènement du Messie. Les orgueilleux subirent un sévère châtiment pour avoir voulu s'occuper des affaires du divin. Tous les trois décédèrent dans des circonstances obscures. Un jour, on retrouva le voyant, gravement malade, au milieu de la rue. Selon la légende, deux démons le sortirent du lit pour le jeter par la fenêtre. D'autres prétendent que sa mort était plus ordinaire. Le voyant enivrait, et il aimait boire, serait tombé par la fenêtre sans aide extérieure. Il mourut en 1815, année de l'échec de Napoléon. Pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire du tzaddik. Regarde attentivement la forme de la place Zamkov. D'après certains, cet ovale représente l'œil du voyant, comme si le tzaddik observait toujours sa ville. Mais ceci n'est pas la fin. En face du château, tu peux voir 10 bâtiments de style Renaissance. Des bâtiments Renaissance? Pas du tout. On les a construits pour le 10e anniversaire de la Pologne communiste en 1954, tout comme la place et les espaces verts qui entourent le château. Même s'il est difficile de se l'imaginer, il y a 50 ans, une ville s'y trouvait, le quartier juif, une ville dans la ville. La rue Sheroka, qui n'existe plus aujourd'hui, traversait le centre de la place Zamkov. Elle se ramifiait en d'autres plus étroites ruelles. De hauts bâtiments, des maisons en bois, des magasins et des ateliers. Et du brouhaha. Poursuivons notre trajet vers la porte Grodzka. Il faut 10 juifs pieux pour réciter le Kaddish, la prière des endeuillés. Certains prétendent que les 10 bâtiments symbolisent 10 juifs vieux et pieux qui prient pour la ville qui n'existe plus. Ce qui reste de cette présence juive à Lublin, qui a d'ailleurs duré plus de 400 ans, c'est ce réverbère. Tu le verras à ta gauche. Si tu t'en approches, tu verras qu'il est sans cesse allumé. Avant la guerre, un tiers des habitants de Lublin étaient juifs. Aujourd'hui, la communauté juive compte environ 15 personnes. La plupart des juifs, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas mort dans le camp de Majdanek, mais à Bełżec, une petite ville au sud de Lublin. Dans un instant, nous allons passer la porte Grodzka, où mène la rue Grodzka. Montons là. Durant plus de 4 siècles, cette porte fut une frontière entre deux mondes, le chrétien et le juif. En même temps, c'était le passage emprunté par les chrétiens désirant faire des courses dans le quartier juif et par les juifs qui avaient des affaires dans le quartier chrétien. Fais attention à ces petites fenêtres grillagées des deux côtés de la porte. Ce sont des vestiges de magasins Klenchnikov. Autrefois, c'était des magasins juifs. En cas de danger, les marchands fermaient les portes et vendaient par les fenêtres. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la porte abritait des appartements privés. Aujourd'hui, c'est une institution municipale qui y siège, le centre Brama Grodzka Théâtre NN, qui s'occupe de l'histoire de Lublin. En remontant la rue Grodzka, quelques dizaines de mètres plus loin, sur ta gauche, près de la place où se trouvent les ruines de l'ancienne église, tu vas voir un bâtiment à l'angle de la rue. Aujourd'hui s'y trouve la Maison de la Culture pour les Jeunes. De la moitié du 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le bâtiment a été occupé par un orphelinat pour des enfants sans abri et pour des personnes âgées juives, une soi-disant ochronka. Entretenu par la municipalité et la communauté juive, il était un asile pour les enfants qui y recevaient des vêtements, un abri et un enseignement. D'après quelques souvenirs, on sait que les familles juives y plaçaient leurs enfants pendant la guerre en croyant qu'ils y éviteraient le danger. Il s'y trouvait des bébés, des enfants de 12 ans et des enfants un peu plus âgés. À la fin du mois de mars 1942, quand les déportations des juifs au camp d'extermination commencèrent, un camion s'arrêta devant l'orphelinat. Quelques nazis sortirent. Ils emportèrent les enfants jusqu'à la périphérie de Lublin, à la mine de sable. Ils les fusillèrent. Ce qui importe, c'est la localisation de l'orphelinat dans la vieille ville. Elle prouve que bien que le quartier juif ait existé, ses frontières n'étaient pas fermées, au moins jusqu'à la guerre. Continuons notre trajet. À gauche se trouvent des ruines. C'est une reconstruction exacte des fondations de l'église moyenâgeuse Saint-Michel Archange, appelé en polonais Farne, et qui était probablement le premier temple bâti en briques en Pologne de l'Est. Au XIXe siècle, il a été démonté à cause du risque d'effondrement. Aujourd'hui, c'est un lieu prisé par les rencontres et les concerts. Nous continuons à monter la rue Grodzka. En parlant de l'histoire de Lublin, il faut absolument mentionner les moments qui l'ont inscrite dans l'histoire de l'Europe. Cela eut lieu deux fois, dans des circonstances similaires. En 1547, des imprimeurs ambulants de Prague, Isaac fils de Haïm et Josef Jakar, reçurent la permission de fonder une imprimerie hébraïque, la première à Lublin et une des premières en Pologne. Ils l'installèrent dans la rue Szeroka, près de l'habitat du voyant. Quelques années plus tard, ils imprimèrent, et ils furent les premiers à le faire, le livre de Sidur, le missel annuel en hébreu. En 1554, Isaac, fils de Haïm, mourut, mais la génération suivante d'imprimeurs juifs continua l'œuvre de leur père. Ils reçurent du roi de Pologne le privilège exclusif d'imprimer et de vendre des livres hébreux sur le territoire du royaume de Pologne. Le livre le plus illustre imprimé par eux à Lublin est un ouvrage mystique, le Zohar. Sefer HaZohar, autrement dit le livre de la splendeur, est une exégèse mystique du Moyen-Âge. Seulement 2 éditions complètes ont été publiées jusqu'au XXe siècle, dont une à Lublin en 1623. C'était aussi à Lublin qu'a été publié, au début du XVIIe siècle, le livre le plus connu en yiddish, Sortez et regardez. C'était un ouvrage destiné aux femmes juives qui contenait des paraphrases et des commentaires du Pentateuque, des cinq livres de Moïse. Quelques siècles plus tard, Lublin a de nouveau marqué l'histoire de l'imprimerie. En 1976, un étudiant en histoire de l'art de l'université catholique Jean-Paul II de Lublin a illicitement importé de l'Occident un petit duplicateur. C'était le premier duplicateur en Pologne. Dès lors, des publications clandestines ont commencé à apparaître à Lublin. Des journaux et des brochures imprimées artisanalement rendaient fous les autorités communistes. C'est le bon moment pour commencer à raconter l'histoire contemporaine de la ville. Mais avant, fais attention à la place du Rynek lublinois que nous passons. Au centre du Rynek se trouve le tribunal de la couronne. Je vais te raconter une légende. Arrêtons-nous devant le bâtiment. L'instance juridique la plus importante y siégeait au XVIe et XVIIe siècle. Si quelqu'un n'était pas satisfait de la sentence prononcée par le juge de première instance, il pouvait se pourvoir en appel au tribunal de la couronne et compter sur un verdict juste. Une veuve s'y adressa en 1637 pour faire appel de la décision du tribunal local. Son cas ne semblait pas être difficile à juger. Un riche noble avait envahi son domicile, avait pillé ce qu'elle possédait de précieux et avait brûlé les bâtiments. La femme sollicitait une indemnité. Toutefois, le riche noble corrompit le juge pour qu'il prononce un verdict en sa faveur. La femme ne se rendit pas. Elle fit appel au tribunal de la couronne et arriva à Lublin, remplie d'espoir d'un verdict juste. Il s'avéra malheureusement que le noble réussit pour la deuxième fois à corrompre le juge. Selon le nouveau verdict, la veuve ne méritait pas d'indemnité. Ainsi, la femme perdit la possibilité de récupérer sa fortune, ne serait-ce qu'en partie. « Le jugement du diable sera plus juste », cria-t-elle et sortit du tribunal. Continuant tout droit, en direction de la porte de Cracovie. Revenons à la légende. Ce soir-là, quelque chose d'étrange s'est passé. Un beau carrosse, magnifiquement décoré, harnaché par des chevaux particulièrement robustes, s'arrêta devant le tribunal. Des messieurs élégants sortirent. Leurs manteaux étaient brodés d'or et décorés avec des pierres précieuses. Mis à part le fait qu'ils avaient des sabots en guise de pieds, il n'y aurait rien eu de particulier. Ils entrèrent dans le tribunal et évoquèrent le cas de la pauvre veuve. On convoqua les témoins pour les auditionner et cette fois-là, devant ces juges insolites, personne n'osa mentir. On prononça une sentence en faveur de la veuve. Le noble devait lui rendre les biens pillés et payer l'indemnité pour le préjudice qu'il lui avait causé. Pour valider le verdict, le diable qui l'avait prononcé frappa la table de sa pomme. Sa patte laissa une empreinte brûlée dans la table. Tu peux voir cette patte du diable dans l'enseigne du restaurant Charchawapa que l'on laisse sur notre gauche en ce moment. La table avec la patte du diable brûlée se trouve dans le hall du musée de Lublin. Entrons dans la porte de Cracovie. Pendant que le diable rendait le jugement, le Christ sur le crucifix de la salle du discours tourna la tête vers le mur. Il voulait éviter de voir que le jugement du diable était plus juste que celui des hommes. La croix du tribunal se trouve dans l'une des chapelles de l'archicathèdre. Passons par la porte de Cracovie et arrêtons-nous. Cette porte moyenâgeuse formait un ensemble avec des fortifications de la ville. Devant cette porte se trouvaient un fossé et un pont-levis. Nous laissons derrière nous la vieille ville avec son histoire. Nous allons nous concentrer sur le passé récent de Lublin qui a marqué la ville et ses habitants. Le bâtiment sur ta droite est la mairie. La Pologne est connue dans le monde grâce à deux personnes, le pape Jean-Paul II et Lech Wałęsa, qui était le leader du syndicat Solidarność. Concentrons-nous sur Solidarność. Le bureau de ce syndicat était installé pas loin d'ici. Ce mouvement pacifique, qui a tellement changé l'histoire de l'Europe centrale et orientale, était indissociable de Lublin. Passons de l'autre côté de la rue et poursuivons notre trajet vers la place Litewski. Pour comprendre le phénomène de Solidarność, nous devons revenir à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Pologne est devenue l'un des satellites de l'Union soviétique. Malgré leur refus, les Polonais n'ont pas réussi à s'opposer à la division du monde d'après-guerre par les grandes puissances. la Pologne est devenue un pays du bloc de l'Est. Le régime de Hitler a été remplacé par le régime de Staline. Les communistes polonais envoyés de Moscou ont commencé à établir une nouvelle organisation d'État d'une main d'acier. Lublin n'a pas eu de chance. Elle a été choisie comme le lieu où les communistes ont proclamé leur gouvernement. Le 22 juillet 1944, Lublin est devenue la capitale temporaire de la Pologne communiste, la République populaire de Pologne. Ainsi est né en Pologne le régime communiste, dont le renversement, quelques dizaines d'années plus tard, a été provoqué par des habitants de Lublin. Le communisme glorifiait l'ouvrier et le servait, au moins théoriquement. En 1980, ce même ouvrier a constaté qu'il en avait marre. 35 années de gouvernement communiste a montré que l'économie planifiée n'est pas efficace pour la gestion du pays. Il n'est non plus pas possible de construire une société qui n'a pas de droits ni de libertés. Il n'est pas possible de gouverner un pays de 40 millions d'habitants quand toutes les élections sont falsifiées et un parti unique détient le pouvoir. Un régime pareil est voué à s'écrouler. Toutefois, son écroulement a nécessité une quinzaine d'années. La Pologne manquait de tout. Pour acheter du papier toilette, il fallait faire la queue pendant des heures, tout comme pour d'autres produits quotidiens, mais indispensables, y compris la nourriture. Ce qui a été le plus absurde, c'est que même en faisant la queue, on ne pouvait pas être sûr d'obtenir le produit désiré. Allons tout droit. Pour publier un journal, une brochure ou un livre, il fallait avoir la permission des autorités. Tout était censuré. C'était une force motrice pour la création des éditions et rédactions clandestines. Lublin, avec le premier duplicateur en Pologne, était le berceau de ce type d'initiative. L'histoire de la Pologne communiste se résume à l'histoire des révoltes contre les autorités. Les élites protestaient, les intellectuels rédigeaient des lettres ouvertes aux autorités et étaient internés. Les ouvriers essayaient, à leur tour, de se rebeller, mais leurs actions finissaient par être violemment réprimées par les autorités. Les étudiants organisaient des grèves dans les universités et finissaient par être expulsés. Ce n'est qu'en 1980, grâce à Solidarność, que le changement est devenu réel. Tous ces groupes ont combiné leurs efforts. L'été polonais de 1980 a fortement été marqué par les grèves. Lublin, ancienne capitale du communisme, a été l'une des premières villes où les ouvriers ont dit non. Parmi les grévistes, on compte les cheminots. Ils ont arrêté la circulation dans l'un des plus importants nœuds ferroviaires de Pologne. La vague de grève s'est répandue dans tout le pays. Suite aux grèves, Solidarność a réussi à faire signer par les communistes une charte de 21 points, en août 1980, au chantier naval de Gdańsk. La charte donnait le droit de grève, la liberté de parole, y compris celle imprimée, le droit à la publication, la liberté de tous les prisonniers politiques, l'abolition des répressions pour les convictions, ainsi que tout l'éventail des intérêts sociaux sollicités par les grévistes. Le dirigeant des grèves est Lech Wałęsa. Continuons notre promenade. Les arbres que nous voyons se trouvent place Litewski. Nous allons y faire une pause. Le succès de Solidarność n'a pas duré longtemps. 16 mois plus tard, les autorités ont commencé à apercevoir que le contrôle leur échappait et ont instauré la loi martiale. Le 13 décembre 1981, presque tous les dirigeants de Solidarność ont été arrêtés. Des chars ont commencé à circuler dans les rues. Le courrier et les téléphones étaient soumis au contrôle de l'État. On a fermé les frontières. Toute activité sociale a été interdite. Même les présentateurs de télé ont été obligés de mettre des uniformes. Après le carnaval de Solidarność, un grand espoir de changement, la société a été vivement frappée par la proclamation de la loi martiale. Les gens se sont sentis trahis. Pendant quelques années, ils ont été réticents à agir. Le plus douloureux était que les responsables de l'instauration de la loi martiale étaient des Polonais. Ce n'était pas une lutte contre un ennemi extérieur, mais un conflit à l'intérieur même de la société. Malgré cette situation extrême, il y avait toujours des gens prêts à agir. Ce sont les femmes qui ont joué le rôle prépondérant. Après l'arrestation des dirigeants, elles sont devenues des sous-chefs et des organisatrices générales de la vie clandestine. La publication des livres, des journaux, l'organisation des rassemblements illicites, non seulement politiques, elle savait le faire parfaitement. La vie indépendante comprenait également des pièces de théâtre, les mises en scène dans des appartements privés, des concerts, des soirées du livre. On s'approche lentement de la place Litevski, située à ta droite. C'est un endroit d'une importance exceptionnelle pour notre récit sur l'histoire de Lublin, de la Pologne et de l'Europe de l'Est. Reculons dans le temps, laissant l'histoire de Solidarność pour voir Lublin dans un contexte plus large. La place comporte des éléments qui sont directement liés au moment charnière pour l'histoire de la ville. Au XVIe siècle, la Pologne avait beaucoup de problèmes, dont un très sérieux, l'ordre allemand des chevaliers teutoniques. Les teutoniques étaient déjà sur la terre polonaise pendant un certain temps et, sous prétexte de l'expansion du christianisme, ils avaient conquis des terres polonaises et lituaniennes et continuaient à le faire. L'union entre la Pologne et la Lituanie, nommée l'union lublinoise, fut une coalition de deux pays qui avaient le même problème. Entre les arbres, tout au bout de la place Litevski, tu vas voir un obélisque sombre qui est un monument à la mémoire de l'union polono-lituanienne, établie en 1569. Arrête-toi un moment près de l'obélisque. Après avoir signé l'union, la Pologne et la Lituanie devinrent la République des deux nations. Elles avaient en commun la Diète, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement, et la politique étrangère, et choisissaient ensemble un roi. En plus, l'union instaura une tolérance réciproque en ce qui concerne les droits des deux nations et leurs religions. Sur la place que tu vois, il y a plus de 440 années, campa l'armée lituanienne venue pour signer l'union. Voici l'étymologie du nom de la place. Litevski signifie en polonais « lituanien ». Avançons un petit peu, arrêtons-nous près du monument du maréchal au cheval. Juste derrière les arbres, à droite, tu vas apercevoir un petit palais rose clair où en 1918, on établit le gouvernement provisoire populaire de la République de Pologne, qui était le premier gouvernement polonais après 123 années d'inexistence du pays. C'était également le premier gouvernement formé après la Grande Guerre. Dans son manifeste, le gouvernement annonça, entre autres, l'égalité de tous les citoyens indépendamment de leurs origines, sexe, religion et nationalité, ainsi que la liberté de la parole et de la conscience. Ce manifeste était considéré comme progressiste. Pourtant, ce gouvernement ne régna pas longtemps puisqu'il rendit le pouvoir aux mains du maréchal Józef Piłsudski, dont nous nous approchons du monument. Józef Piłsudski fut un politicien éminent des années 20 et 30. C'est à lui que la Pologne doit l'indépendance de 1918. Même s'il est difficile à se l'imaginer, sur cette place se trouvait autrefois une énorme église orthodoxe. Elle fut édifiée en 1873. Et déjà 50 années plus tard, elle fut démontée puisque l'armée russe quitta Lublin. Les briques de cette église servirent à la construction de la maison du soldat pour l'armée polonaise indépendante. Cette maison portait le nom de Józef Piłsudski. Le monument que tu vois est neuf. Pendant la période communiste, se trouvait à sa place un monument de reconnaissance à l'armée rouge qui représentait un énorme soldat soviétique avec un drapeau. Il est inutile d'ajouter qu'il n'inspirait pas de sentiments positifs chez les habitants de la ville. Il était sans ambiguïté associé à l'occupation des soviets. Ce monument a été dégradé à plusieurs reprises. On y a versé de la peinture, on l'a détérioré, jusqu'à l'année 1990, quand il a finalement été démonté. Une curiosité de la place Litevski. Ce grand arbre au milieu de la place est appelé Baobab par les habitants de Lublin. C'est un lieu idéal pour les rencontres. Néanmoins, cet arbre n'a en réalité rien en commun avec le Baobab. C'est un peuplier commun. Regarde autour de toi. Trouve le grand hôtel. C'est ce bâtiment luxueux avec l'horloge au coin de la rue. Approchons-nous de celui-ci. Changeons de trottoir au feu pour se retrouver près de l'hôtel. Je reviens à l'histoire contemporaine de Lublin. C'était exactement à cette place qu'ont eu lieu, pendant des années, des manifestations illégales contre le gouvernement communiste. Imagine-toi les étendards blanc-rouge de Solidarność face aux unités spéciales de la milice. Les participants racontent que pendant la manifestation, la milice a utilisé du gaz lacrymogène si intensivement que pendant les quelques jours qui suivaient, Les pigeons qui habitaient la place n'étaient pas capables de voler. Les manifestations n'étaient pas la seule façon de protester. Imagine-toi la rue Krakowskie-Przedmieście entre 7h30 et 8h du soir, remplie de gens. Une foule massive, pas moyen de passer. Pendant la loi martiale, au début à Świdnik, qui est une ville à proximité de Lublin, puis à Lublin, durant le journal télévisé, qui était une émission de propagande communiste, les gens sortaient massivement dans les rues. Ce happening était une protestation contre les mensonges de la propagande communiste. Ces promenades se sont vite répandues dans d'autres villes polonaises. Après avoir traversé le feu, arrêtons-nous devant les grands hôtels. Une autre forme de protestation consistait à placer les postes de télé dans les fenêtres, l'écran tourné vers l'extérieur. Mais c'était la musique qui réconfortait les gens. Le mur de Jacek Kaczmarski était l'un des morceaux les plus célèbres joués partout. Écoutez un extrait.
Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Zerwij mur od zęby krat, zerwij kajdany połapan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
Jusqu'à présent, je t'ai raconté les années du communisme en Pologne, les manifestations, les arrestations et la violence des miliciens. Aujourd'hui, Lublin n'est plus la même ville qu'autrefois. Tout comme la Pologne contemporaine est différente de celle du communisme, il suffit de regarder autour de soi. Même si tu n'as pas connu la Pologne communiste, sache que Lublin actuel a de moins en moins en commun avec ce monde-là. Continuons notre trajet par la rue Krakowskie-Przedmieście. Les changements ont pu se produire grâce aux élections parlementaires, partiellement démocratiques, qui eurent lieu le 4 juin 1999. C'est la date charnière, puisque la grande majorité de la société vota pour l'opposition. Ce fut le jour de la victoire de la Pologne sur le communisme. Le pays sur la Vistule montra aux autres pays du bloc de l'Est que la libération de l'emprise soviétique était possible. Suite aux élections, l'opposition disposa de tous les mandats possibles. Ni les communistes, ni Solidarność ne s'y attendaient. Pendant les élections, tous les candidats de Solidarność utilisèrent des affiches identiques. Elle était grande, comprenait une inscription rouge bien reconnaissable et une photo de Lech Wałęsa. Les affiches remportèrent un franc succès. Il ne fallait rien ajouter. Wałęsa était le symbole du changement démocratique. Dans quelques instants, on va voir un bâtiment à l'angle de la rue dans lequel se trouve une librairie. Dépassons-le et tournons à gauche pour nous arrêter près de la porte grillagée. Nous sommes au numéro 62 de la rue Krakowskie-Przedmieście. Approchons-nous de la grille près du palais que tu vois en face. Dans le garage qui se trouve au fond de la cour, à gauche, siégeait en 1999 le comité civil Solidarność, qui a organisé la campagne électorale de ce mouvement. C'était dans des lieux banals comme celui que tu vois que les gens travaillaient au changement qui serait introduit en Pologne et ensuite en Europe de l'Est. Continuons notre promenade le long de Krakowskie-Przedmieście. Après les années de résignation provoquées par l'échec de Solidarność au début des années 80, la société a commencé de nouveau à espérer le changement. Des milliers de personnes ont participé à la campagne électorale. Et malgré la pénurie d'argent, de papier et d'imprimerie indépendante, la ville entière a été couverte d'affiches de Solidarność. C'était entre autres dû au mérite de scouts anticommunistes qui, de l'aube au crépuscule, ont apporté leur aide. J'ai déjà deux fois mentionné les imprimeries clandestines. Maintenant, je veux t'en dire plus sur ce sujet. Les communistes n'acceptaient aucune voix qui contredirait leur vérité. Les médias n'embauchaient pas ceux qui avaient une autre vision du monde. Ceux qui osaient critiquer le parti finissaient en prison. Pourtant, la société avait besoin de liberté d'expression. Les gens se débrouillaient comme ils pouvaient. Au début, ils recouraient à des solutions simples. À l'aide du papier calque, on copiait des courts textes, des poèmes, des récits. On les donnait aux amis en leur disant de faire la même chose. C'était pourtant une méthode assez exhaustive et peu efficace. Et les gens désiraient lire. On essayait de trafiquer des ouvrages publiés en Occident, mais cette méthode était encore moins efficace. Il était très difficile de revenir de l'Ouest avec plus d'un exemplaire de littérature interdite par les communistes. Ces livres, rapportés malgré plusieurs obstacles, circulaient entre amis. Il y avait une règle, on avait le livre pour une nuit, pour que quelqu'un d'autre puisse le prendre le lendemain. Enfin, en 1976, on a réussi à trafiquer de l'Occident une simple imprimante manuelle, un duplicateur. Cette machine est arrivée à Lublin. Il faut ajouter qu'à ce moment-là, en Pologne, pour acheter du papier en gros, il fallait avoir la permission des autorités. Je parle du papier commun. Le papier machine est encore plus difficile à acheter en grande quantité. Continuons tout droit par la rue Krakowskie Przedmieście. L'apparition des duplicateurs et de nouvelles technologies de l'imprimerie commencèrent une véritable révolution. Imprimerie, rédaction et édition clandestine proliféraient. On imprimait partout, dans les appartements et maisons privées, dans les garages. Toutefois, le processus même de l'imprimerie était compliqué. Reprenons dès le début. Il était difficile de trouver une maison ou un appartement où habitaient des gens fiables. L'odeur de l'encre d'imprimerie était facilement repérable aux alentours de l'imprimerie clandestine, ce qui était dangereux. De plus, il fallait préparer des matrices avec du texte à copier sur le papier. Elles étaient censées reproduire entre 100 et 150 copies, mais des imprimeurs habiles savaient en obtenir quelques milliers. L'appareillage imprimé n'était pas non plus parfait. Avant l'arrivée du premier duplicateur, on imprimait à l'aide de machines bricolées à la maison, fabriquées souvent à l'aide d'éléments bizarres comme des planches, des cadres en bois, des rouleaux à pâtisserie, des vitres, des cales en flanelle, etc. L'encre d'imprimerie était produite à base d'huile ou de cirage. L'effet obtenu était rarement satisfaisant. Certaines lettres étaient floues et à cause des caractères minuscules choisis pour économiser de l'espace, il était difficile de discerner les lettres. De plus, il était nécessaire de sécher les pages imprimées. Au début, on les déployait partout dans l'appartement de l'imprimeur ou on les étendait à la curte comme le linge. Les gens ingénieux construisaient des sécheurs électriques. Et finalement, il fallait réunir les pages en une publication intégrale. En même temps, les imprimeurs devaient se débarrasser des pages ratées et des restes de papier pour ne pas laisser de traces de leurs activités illégales. Ces pièces à conviction étaient brûlées, jetées à l'eau ou enterrées. Il était absolument interdit de jeter ces ordures dans les poubelles municipales puisque cela pouvait mettre en danger les éditions et les gens qui y étaient engagés. La discrétion régnait aussi pendant le cycle de production. Les équipes d'imprimeurs s'enfermaient dans un endroit et y travaillaient sans interruption pendant quelques jours pour éviter de faire de la confusion inutile en sortant et rentrant. Les publications achevées étaient transportées dans d'autres endroits sûrs. Ensuite, des réseaux compliqués de diffusion étaient créés. Ainsi, des publications indépendantes sont devenues plus accessibles. Certainement, les autorités poursuivaient avec zèle les éditeurs illégaux, mais une imprimerie fermée était vite remplacée par une autre. La conspiration était totale. Parfois, les gens ne savaient pas que leurs voisins rédigeaient un journal qu'ils recevaient ensuite d'une personne fiable au travail. Dans quelques dizaines de mètres, nous allons parvenir au carrefour avec des feux qui marque la fin de la rue Krakowskie Przedmieście et le début de Aleje Racławickie. On va changer de trottoir et continuer tout droit vers la cité universitaire. Si on tournait à gauche, on arriverait à une maison ordinaire qui est liée à une histoire curieuse. Mais nous, on va continuer tout droit. À la fin des années 80, les communistes se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de contrôler tous les domaines de la vie sociale. Ils ont donc permis à des organisations indépendantes de fonctionner, mais de façon limitée. Par exemple, ils ont loué un petit bâtiment à deux organisations. Ce projet avait un objectif caché. Les autorités ont décidé de mélanger le feu et l'eau, une association indépendantiste avec les anarchistes lublinois. Ils espéraient que les différences idéologiques entraîneraient une querelle et qu'au lieu de lutter contre les communistes, les deux groupes se disputeraient entre eux. Tant non seulement les indépendantistes et les anarchistes ne s'attaquaient pas, mais ils ont commencé à organiser ensemble des activités contre les autorités. Les deux groupes ont constaté que malgré les différences évidentes entre eux, ils avaient un ennemi commun, les autorités communistes et le manque de démocratie en Pologne. Nous allons traverser le feu et continuer tout droit vers la cité universitaire. Regarde sur ta droite, en direction du petit bâtiment néo-gothique avec des tourelles saillantes. Auparavant, c'était la maison du jardinier du parc. Elle était construite de briques provenant de l'église démontée dont tu as vu les fondations dans la vieille ville. Ce que je viens de te raconter témoigne de la diversité de l'opposition. L'opposition anticommuniste était effectivement très diversifiée et chaque groupe avait sa propre vision de la Pologne. Certains opposants n'étaient pas du tout liés à l'Église catholique, d'autres n'étaient pas des adversaires fervents des idées communistes. Il y en avait qui n'étaient pas ouvriers, il y en avait qui n'étaient pas intellectuels. Ce qui les poussait à agir, c'était souvent la pénurie. La pénurie de produits de tous les jours rendait les gens irrités et énervés, ce qui menait en conséquence à des grèves et finalement à l'engagement politique. Continuons notre trajet. Nous marchons toujours le long de Alleia Radziechowska. Dans quelques instants, tu vas voir à ta droite, dans le feuillage, un grand bâtiment. Aujourd'hui, il abrite l'université de médecine. Mais le bâtiment a été construit en 1951 selon le projet de Czesław Doria Dernałowicz, qui était un architecte lublinois de renom. L'édifice se trouve sur le territoire d'un parc lublinois, Ogródzaski. Pendant 40 ans, il a été le siège principal du comité des communistes polonais de la voïvodie lublinoise. Les manifestations organisées sur la place Litewski finissaient souvent devant les murs de ce bâtiment, qui était en quelque sens le symbole du gouvernement haï. Pendant un certain temps, il a été occupé par les activistes indépendantistes et anarchistes dont je viens de te parler. Dès le début, le bâtiment du comité a donné lieu à des controverses. Selon quelques rumeurs, juste après la fin des travaux de construction, Bolesław Bierut, le premier président de la Pologne communiste, d'ailleurs originaire de Lublin, est venu pour l'évaluer. Quand il a vu que le parti avait bâti sa maison sur le territoire de son parc favori, il s'est mis en colère. Bierut était un personnage curieux. Les communistes polonais voulaient faire de lui une personnalité entourée du culte semblable à celui de Staline. Les portraits et les bustes de Bierut étaient partout. Dans les écoles, dans les institutions publiques, sur les murs. On la photographiait entourée d'enfants souriants ou d'animaux sauvages, tout comme Staline. Bierut avait même une biche chez lui. Ce qui est encore curieux, c'est que dans la période du stalinisme, plusieurs poètes et romanciers polonais célèbres vénéraient Bierut dans leurs ouvrages. Continuons notre promenade. Une autre curiosité. Regarde sur ta gauche. Derrière la palissade en bois couverte d'affiches, tu vas apercevoir un grand bâtiment en construction. C'est le théâtre en construction. Ce théâtre est un ouvrage légendaire et unique en son genre. Les travaux d'édification ont été commencés en 1974, puis ils ont été arrêtés pendant 2 ans à cause d'un manque d'argent et d'idées pour financer à l'avenir cet immeuble colossal. Dans les années 80 et 90, les municipalités payaient pour entretenir ces bâtiments gigantesques. On s'est décidé à reprendre la construction dans la deuxième moitié des années 90, quand le théâtre a commencé à rapporter des revenus en louant des appartements à diverses entreprises. La date prévue de fin de construction a été reportée plusieurs fois, tout comme les idées pour aménager ce lieu étaient nombreuses. Quel est le résultat? Je t'invite à l'examiner. À propos du théâtre, il faut absolument mentionner les vrais théâtres, qui sont un élément inhérent de l'âme de Lublin. Les jeunes et les étudiants, toujours nombreux à Lublin, étaient les lecteurs les plus acharnés des publications clandestines. Leur passion de la lecture a vite évolué en activité. Ils ont commencé à fonder des jeunes théâtres indépendants d'avant-garde. Déjà dans les années 50, il y avait des groupes de comédiens. Dans les 60, est né Radka Jaka, le centre culturel étudiant où aura lieu des activités indépendantes de toutes sortes, dont des activités théâtrales. On organisait des festivals auxquels participaient des théâtres d'autres parties de la Pologne et d'Europe. Dans les années 70, Lublin est l'un des centres d'activité théâtrale les plus connus en Pologne. Le théâtre Provisorium, Scenaszewsz et Grupa Chwilowa sont créés. Dans leurs spectacles, ils parlent de la réalité communiste, la critique et montrent les mécanismes dont les autorités se servent pour dégrader l'être humain. Tous ces théâtres ont des problèmes avec la censure, le service de renseignement secret, qui essaie de démasquer des leaders de groupe. Les jeunes s'inspirent d'ouvrages littéraires interdits en Pologne, comme ceux de Czesław Miłosz, de Witold Gombrowicz ou d'Albert Camus. La loi martiale fait taire les théâtres, mais ce silence ne dure pas longtemps. Quelques mois plus tard, de nouveaux spectacles sont montés, et cette fois-ci, les groupes s'inspirent de l'expérience qu'ils ont eux-mêmes vécue, telles que les arrestations, les internements ou les agressions par des miliciens. Pourtant, un problème apparaît. Le recteur de l'université Marii Skłodowska, qui gère Chatka Żaka, est forcé de fermer les théâtres du centre. Mais ceux, même privés des locaux, essaient d'agir. Il ne faut pas réduire le théâtre d'avant-garde de Lublin aux étudiants et à Chatka Żaka. En 1977, à la campagne Gardzienice, à proximité de Lublin, à l'initiative de Włodzimierz Staniewski, naît le théâtre des pratiques théâtrales Gardzienice, aujourd'hui parmi les plus importants théâtres expérimentaux dans le monde. La culture folklorique est la force naturelle de Gardzienice. Dès le début, la troupe allait voyager en Pologne et puis dans le monde pour créer une nouvelle qualité à partir de rencontres avec des gens, du vagabondage, des répétitions et des spectacles. Un autre théâtre d'avant-garde lublinois, connu outre-mer, est Scena Plastyczna Kul, créé et dirigé par Leszek Mondzik. Ce qui est essentiel dans le travail de ce théâtre, qui existe depuis 1969, et que tous les spectacles sont construits à partir du mouvement, de la lumière, de la scénographie et du son. Ils sont dénués de paroles. Maintenant, nous allons arriver près de l'Université catholique de Lublin, en abrégé polonais KUL. Dans quelques instants, tu vas la voir sur ta gauche. Si la porte est ouverte, tu peux entrer, traverser le couloir et sortir dans la cour. Sinon, arrête-toi un moment dans l'escalier. Le bâtiment fut érigé au XVIIIe siècle et servait de couvent. En 1800, les Autrichiens l'occupèrent, renvoyèrent les moines et transformèrent le bâtiment en hôpital militaire. 9 années plus tard, l'armée y installa sa caserne. Pendant les 113 années qui suivirent, seuls les uniformes et l'origine des soldats qui y stationnaient changèrent. En 1918, quand la Pologne proclama son indépendance, on y créa une université. Si tu as réussi à entrer, approche-toi du monument qui se trouve dans la cour. Sinon, reste dans l'escalier. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une partie des professeurs et des étudiants fut déportée dans les camps de travaux forcés en Allemagne. Une autre partie fut internée dans des camps d'extermination ou fut fusillée. Malgré cela, l'université organisait l'enseignement clandestin pour ses étudiants. Les temps difficiles ne finirent pas avec la fin de la guerre. Les autorités communistes luttaient avec effervescence contre la religiosité des Polonais. L'université était constamment espionnée par le service de renseignement. En même temps, l'université catholique était la seule à admettre les étudiants expulsés par d'autres établissements pour avoir agi contre le gouvernement ou pour avoir manifesté. Bien qu'en 1944, une autre université fut créée, le rôle de la KUL ne diminua pas. C'est ici qu'arrivèrent pour étudier des gens des quatre coins du pays, attirés par la possibilité de rencontrer des profs de la génération d'avant-guerre et par l'indépendance de la propagande communiste. Dans la cour en face, tu vas voir un monument représentant deux personnages. Ce sont le cardinal Stefan Wyszyński et Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II, qui était l'un des professeurs de la KUL. Le rôle du pape Jean-Paul II dans l'histoire de la Pologne contemporaine a été tel qu'il faut absolument en parler. Comme je l'ai déjà dit, d'année en année, la société perdait confiance dans le gouvernement communiste. Les groupes d'activistes clandestins regroupaient de plus en plus de gens. Ils complotaient et créaient un monde parallèle. Toutefois, puisque ces groupes fonctionnaient dans la clandestinité, ils ne pouvaient pas estimer l'ampleur du mouvement dont ils faisaient partie. Il arrivait que les membres d'une famille ne soient pas conscients de l'engagement de leurs parents. Le père pouvait être imprimeur, la mère colportait la presse et le fils était un scout anticommuniste, sortant devant le bâtiment. Quand Karol Wojtyła devint pape et visita la Pologne en 1979, la société ouvrit les yeux. En voyant les quelques millions de personnes qui vinrent en messe célébrée par Jean-Paul II. Et ceux qui étaient engagés dans l'opposition étaient souvent des personnes croyantes. Les étendards avec la Vierge Marie se mêlaient à ceux portant des slogans indépendantistes. Peu après, 10 millions de Polonais s'inscrivirent à la Solidarność. Ils n'avaient plus peur d'être en minorité. Revenant sur l'escalier devant le bâtiment, je vais encore te raconter une anecdote. Quand Wojtyła, le futur pape, enseignait à la Kul, il débattait souvent avec le professeur Albert Krompitz, futur recteur de la Kul. Il délibérait des questions clés de la théologie. Une fois, Krompitz décida d'assister à un cours de Wojtyła pour jeter des commentaires mordants. Quand Wojtyła revint à l'université en tant que pape, après des années, il chuchota à Krompitz pendant la rencontre avec des professeurs. Et qui a eu raison? Cette phrase est d'autant plus importante puisque dans l'Église catholique, il y a un dogme sur l'infaillibilité du pape. Descendons l'escalier et tournons à gauche. On va aller voir une autre université lublinoise, l'université Marie-Curie Skłodowska, en abrégé polonais UMCS. Marchons encore 100 mètres et tournons à gauche, dans la rue Wąpaczyńskiego. Le passé de l'UMCS est totalement différent de celui de la Kul. Juste après la guerre, en 1944, les communistes se décidèrent dans le cadre de l'instauration du nouvel ordre à défaire leur ennemi, l'université catholique, en fondant une autre université qui était censée dominer la première. Ils construisirent une université énorme, comportant des salles de conférences, des maisons d'étudiants, etc. Ils introduisirent de nouvelles matières et n'oublièrent pas de faire leur propagande. Pourtant, tout comme les ouvriers, supposés glorifiés par le communisme, les étudiants se retournèrent contre le gouvernement mensonger. Ensemble avec les étudiants d'autres écoles supérieures, ils organisaient des grèves, des manifestations, et même parfois ils occupèrent des bâtiments de l'université. Ils protestaient contre le manque de liberté de parole, de rassemblement, et contre l'endoctrinement de l'enseignement. Ils voulaient avoir le droit de jouir de la liberté des recherches académiques, de créer des associations indépendantes légales, de publier des journaux, de monter des pièces de théâtre. Après avoir tourné à gauche dans la rue Wąpaczyńskiego, continuons tout droit le long de la rue. À gauche, on dépasse le monument dédié à un grand poète romantique, Cyprian Kamil Norwid. C'est un personnage à l'histoire tragique. Forcé d'émigrer du pays, il n'accepta jamais son destin d'émigré. Il mourut dans la misère dans un hospice parisien en 1883. La création de Norwid ne s'apparente pas du tout à des poèmes romantiques langoureux et patriotiques. Il incarnait l'approche avant-gardiste de la littérature. On laisse sur notre gauche le campus de la Kul. Pendant des années, l'université n'a occupé que les espaces modestes et serrés de l'ancien bâtiment, comme on l'appelle aujourd'hui. En fait, l'université devait d'un côté faire face à des répressions communistes, de l'autre à des problèmes financiers, ce qui bloquait les travaux de finition prévus. Finalement, le grand immeuble qu'on voit aujourd'hui n'a été achevé qu'il y a quelques années. La plupart des cours y a lieu. Pourtant, les salles de l'ancien couvent, étroites et empreintes d'une certaine atmosphère, manquent à certains étudiants et professeurs. Ce qui est curieux, c'est qu'une fois par an, dans toutes les églises de Pologne, on recueille des donations pour le développement de cette université. Nous nous trouvons dans le cœur de la cité universitaire. C'est le bon moment pour te donner quelques faits sur la situation actuelle de la ville et de mentionner ses défis. Tu as sûrement réalisé que Lublin n'est pas une grande ville industrielle, même si pendant la période communiste, on essayait d'y créer de grandes entreprises industrielles. Pourtant, ces entreprises ont vite fait faillite à cause de leur inefficacité. Lublin est entourée de champs et de forêts. En même temps, c'est une ville frontalière de l'Union européenne. Un grand nombre de personnes perçoivent cette localisation comme une qualité de la ville, car elle relie l'Est et l'Ouest et peut être un lieu de rencontre entre ces deux réalités. On commence à accepter cette idée qui met en valeur l'enseignement et la culture, et y voit l'avenir de la ville. On ne néglige pas la culture indépendante dont je t'ai raconté les origines. Bref, on pense à unir le potentiel des étudiants à la culture et l'enseignement. Dans le cadre de cette perspective, la ville fait des efforts pour devenir capitale européenne de la culture. On voudrait qu'en 2016, Lublin soit le lieu de rencontre des gens de tous les coins d'Europe, qui viendra ici pour goûter au multiculturalisme, au théâtre contemporain et aux autres activités préparées par les animateurs lublinois. On parle aussi d'un lieu d'inspiration réciproque. Des visiteurs viendront aussi pour puiser dans ce que Lublin a à offrir et pour laisser ici des idées fraîches qui deviendront source d'inspiration pour des initiatives locales. Le titre de capitale européenne de la culture est perçu comme une chance énorme pour le développement de Lublin, aussi bien culturel que spatial. Continuons notre trajet, allons vers la gauche. Malheureusement, bien que le multiculturalisme de Lublin soit aujourd'hui le leitmotiv des conversations sur la ville, il est difficilement observable dans la vie de tous les jours. Le multiculturalisme réel, l'interpénétration des locuteurs de différentes langues et de diverses religions, a disparu avec la Deuxième Guerre mondiale et l'instauration du communisme. Le peu d'étudiants étrangers ne peut pas combler ce vide et faire de Lublin une ville véritablement multiculturelle. Mais quand on observe l'épanouissement d'autres pays européens, on réalise que tout est devant nous. Nous avons atteint un carrefour. Tournons à droite. Tu vas voir dans quelques instants la place principale de l'UMCS avec le monument de sa patronne Marie Kliskodowska. C'est l'unique université publique qui a une femme pour patronne. C'était un personnage extraordinaire. Elle naquit en 1867 à Varsovie. En 1891, elle passa des examens et fut la première femme de l'histoire à être admise à la faculté de physique et de chimie de la Sorbonne. Ses mérites les plus considérables consistent en l'élaboration de la théorie sur la radiation et des méthodes de disjonction des radioisotopes, ainsi que la découverte de deux nouveaux éléments chimiques, le radium et le polonium. De plus, elle dirigea les premières recherches au monde sur le traitement du cancer à l'aide de la radioactivité. Elle reçut le prix Nobel de physique en 1903 pour ses travaux sur les phénomènes de la radiation et le prix Nobel de chimie en 1911 pour avoir découvert le radium. Aucune autre femme n'a reçu ce prix deux fois, ni des deux domaines des sciences naturelles. Nous finissons notre promenade. Nous avons fait une esquisse du destin complexe de la ville. J'espère qu'en te montrant ces quelques lieux et en te racontant ces quelques anecdotes, j'ai réussi à te transmettre cet état d'esprit lublinois, ne serait-ce qu'en partie. J'espère aussi qu'après avoir écouté l'histoire complexe de la ville et de ses habitants, tu auras plus d'envie et de courage pour explorer des endroits qui t'étaient inconnus jusqu'à présent. Je t'invite à entrer dans la place universitaire sur ta gauche et à te reposer un moment sur un banc. Merci pour la promenade.